Fondre pour du beurre. Arrivé près d'une heure en avance sur le train de 11h37, il laissa sa voiture sur le parking de la gare routière et s'installa à une table du café dans le hall principal. La météo n'était plus à la bière. Il prit un chocolat chaud. Élise aimait les chocolats chauds. Lui vint en tête la scène de l'avant-veille, quand Gaëlle avait annoncé à son fils, durant le dîner, qu'elle avait proposé à Édouard d'être son parrain et qu'il avait dit oui. Il ne restait qu'à obtenir l'accord de l'adolescent. Gauvin s'était levé avec une telle spontanéité que sa chaise était tombée derrière lui. Il avait embrassé sa mère puis empoigné la main de l'homme avant de s'enfuir avec sa sangle. Il aimait aussi parfois la couvrir de joie. Cette sangle, Gaëlle l'avait alors expliqué à Édouard, fut la seule chose que son fils garda du père, routier de profession. En quittant la maison après le drame, l'enfant était sorti du garage avec cette sangle bleu roi enroulée sous son bras. Sa mère supposa à l'époque qu'il était fasciné par cet objet que son père manipulait sous ses yeux pour fixer les bâches. Quelques années plus tard, il y montait pour y distiller ses peurs. Édouard baissa la manette des essuie-glaces pour balayer les gouttes qu'une légère pluie déposait sur le pare-brise. Le flou persista. Il n'avait jamais été intronisé parrain, alors qu'il avait toujours estimé cette responsabilité honorable. Il avait fallu attendre 50 ans et ce bouleversement dans sa trajectoire pour que les choses s'alignent et les fossés se comblent. Puis il refit de mémoire la visite immobilière de la veille. Ils étaient arrivés en force et le type de l'agence avait fait des yeux ronds. Édouard et Adèle, bien sûr. Raymond, pour un avis à propos de l'installation électrique. Gaël et Gauvin, parce qu'il leur était inconcevable de ne pas être présents. Si quelques travaux étaient nécessaires, la configuration était parfaite pour y installer son futur atelier, son logement et relancer l'auberge qui pourrait accueillir Adèle et sa mère. La cour, délimitée par les trois bâtiments, ferait une terrasse parfaite pour installer les touristes durant la saison d'été. L'héritage de ses parents permettait à Édouard d'acquérir l'ensemble, d'y réaliser l'aménagement adéquat et de garder un matelas de sécurité pour quelques années. À l'issue de la visite, chacun proposa ses services et l'hiver pourrait être consacré à la rénovation pour une prise d'activité en fin de printemps. Il envoya quelques photos à sa fille, qui lui répondit un message encourageant. « C'est beau, papa. Fonce, si tu t'y plais. Il y aura une place pour moi ?» Avant de formuler son offre à l'agent immobilier, il se demanda si cette décision ne relevait pas d'un dangereux coup de tête que l'on regrette dès le lendemain. Pour autant, ce séjour en forêt lui avait appris à retrouver son instinct, à lui laisser le champ libre dans ses décisions, et cette petite voix intérieure était favorable. Beau et calme, l'endroit était proche de Doux Chemin, proche de son futur filleul. Il pourrait y accueillir sa fille, ses amis, et réaliser son rêve. Il appela l'agence. Une demi-heure s'écoulerait encore avant l'horaire d'arrivée du train d'Élise. Il téléphona à Denis. Seul le répondeur s'enclencha. Édouard y vit un signe. Il éprouvait le besoin de lui parler des rebondissements récents et d'un autre côté se sentait plus sûr de lui. Cette grande solitude qu'il ressentait depuis plusieurs semaines, dans ses décisions, dans ses questionnements, dans son emploi du temps, ne lui apparaissait plus comme un vide angoissant, mais comme une force à laquelle se mesurer. Il était galéchin face au géant et il vaincrait. Il eut juste le temps de ranger son épée et dissimuler son bouclier avant que le TGV n'entre en gare. Élise arriva parmi les premiers passagers. Son sourire perdu toucha Édouard. Il comprit en un instant qu'elle avait souffert de son départ précipité autant que lui de l'annonce, qu'elle espérait beaucoup de ses retrouvailles, qu'elle s'en voudrait de ce nuage entre eux et qu'elle craignait de le perdre. Lui aussi. Il l'accueillit et l'abrita dans ses bras, au milieu de la foule impétueuse qui coulait autour d'eux. Ils étaient parfois bousculés par un sac ou une personne étourdie, mais Édouard faisait bouclier et la sentait se coller contre lui. « Protège-moi !» criait-elle en silence. Ils se respirèrent, écoutèrent battre leur cœur, se goûtèrent un instant du bout infime des lèvres et se calèrent à nouveau tout contre l'un, tout contre l'autre. Son nez à elle dans le creux de l'épaule, à la recherche de l'odeur connue et rassurante, son nez à lui, bien caché dans le cou, pour capter les effluves fruités et enivrants. La vie pouvait s'arrêter là. Ils se décidèrent cependant à la poursuivre dans cette gare presque vide, qui reprenait son souffle avant le train suivant. Ils se parlèrent peu jusqu'au restaurant. Quelques banalités, la couleur du ciel, la voiture en réparation, l'architecture de la ville. L'annexe, située au début de la rue Émile Burgot, venait à peine d'entamer son service de midi. Édouard n'avait pas choisi cette adresse par hasard. Il en était tombé amoureux durant son séjour avec Armel. La cuisine était succulente, originale, étonnante, et sa femme n'en avait eu que faire. Elle n'avait relevé aucun plaisir gustatif, là où Édouard semblait découvrir des saveurs inédites dans un indicible enchantement. La carte proposait peu de plats. On trouvait viande, poisson, fruits de mer, œufs et légumes divers. De marché, comme précisé en introduction. Le silence fut de mise le temps de délibérer. Le choix d'Édouard était fait, il connaissait la carte. Il regardait Élise, il la mangeait. Quand elle levait les yeux, il baissait les siens vers le menu, avec ce petit décalage qui ne mentait à personne. « Arrête de me regarder comme ça, tu me déconcentres. Tu as choisi ?»«
Oui. »«
Tu prends quoi ?»«
Dis-moi d'abord. »«
Entrée, plat, dessert. Ici, on ne peut pas faire autrement. » »«
C'est beaucoup trop pour moi. » »«
Nous irons marcher jusqu'au rempart et puis le long des quais. » Édouard savourait l'idée de commander chacun des plats différents qu'il pourrait se faire goûter. En entrée, Élise prit l'œuf basse température, choucal et girolles, et condiments noisettes. L'huile veloutée de butternut, quinoa et chromeski au chèvre et miel. En plat, elle voulut le filet de lieu jaune, coco de pin pol et chorizo à la sauce mangue curry, pendant que lui optait pour le gigot d'agneau confit au miel, semoule et houmous, dattes et épices. Ils se laissèrent guider pour le vin. Après la commande, l'instant fut solennel. Édouard désirait comprendre, ni très sûr de lui en vouloir encore, ni très sûr de pouvoir oublier.
« Tu m'expliques ?»
Un article, paru en début d'été dans Ouest France, parlait de ma boutique. Je posais devant la vitrine. Sa lettre est arrivée quelques jours plus tard. Je l'ai prise avec moi, si tu veux la voir. Élise fouilla dans son petit sac en cuir violet à bandoulière, puis lui tendit l'enveloppe. Pendant qu'il l'ouvrait, elle saisit un morceau de pain et goûta le beurre au curry qu'on venait de déposer sur la table. La demi-sphère jaune-orangée brillait comme un sorbet, et il fallait se faire violence pour oser l'entamer avec un couteau et trancher dans cette finesse. Elle était de celles qui ne se privent jamais de choses exquises sous prétexte de les préserver. Elle profitait.
« Bonjour Élise, vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez mon mari. Je suis l'épouse d'Édouard Fourcade. Il ne m'a jamais vraiment parlé de vous, mais je sais que vous étiez très proche, adolescent, et qu'il vous aimait beaucoup. Il a gardé quelques photos, des lettres de vous. C'est ainsi que je vous ai reconnu sur l'image dans le journal. Je me permets de vous écrire pour vous dire qu'il serait sûrement très heureux d'avoir de vos nouvelles. Voici son adresse si vous souhaitez lui écrire. »
Édouard replia la lettre et la rendit à Élise qui mâchait son pain au beurre de curry les yeux fermés et un sourire béat sous le nez.
« Ce beurre est un pur délice. »
Cette lettre signifie qu'elle a fouillé dans ma boîte, qu'elle a sûrement lu tes courriers de l'époque. Je ne lui ai jamais parlé de toi.
Je ne savais pas. J'étais surprise, heureuse surtout de te retrouver. Ai-je eu le tort de ne pas me poser plus de questions concernant sa démarche spontanée?
Tu n'as pas eu d'autres contacts avec elle?
Aucun. L'harmonie était là, sous les yeux d'Édouard, sous les traits d'une femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, qui reprenait du beurre au curry et fondait de plaisir. Ce qu'il éprouvait pour elle n'avait fait qu'hiberner, et l'amour se réveillait d'un long sommeil, plus affamé que jamais, de nourriture et de douceur. Avec une douceur infinie, Élise posa sa main sur celle d'Édouard, qui sentit quelque chose l'envahir et se répandre dans tout son corps et un peu au-delà. Quelque chose qu'aucun mot ne pouvait définir. S'il avait fallu le décrire, Édouard aurait parlé d'un halo de lumière, de la chaleur d'un feu dans la neige, d'un rire d'enfant peut-être. Elle tendit un morceau de pain beurré vers sa bouche et il l'ouvrit comme on accueille l'hostie. À cet instant précis, il se fichait du corps du Christ, il voulait celui d'Élise. Je n'ai pensé qu'à toi, pas aux arrière-pensées éventuelles de ta femme. L'entrée arriva. Élise prit quelques secondes pour admirer la présentation des mets. Puis elle commença à les déguster, en ondulant de plaisir. Édouard croisa la certitude au fond de sa conscience apaisée. Il se demanda s'il n'était pas trop simpliste. Décidé qu'il quittait son épouse pour une histoire de fruits dans une bouteille de verre. Comprendre qu'il voulait partager l'avenir d'une autre femme parce qu'elle fermait les yeux pour déguster du beurre au curry. Finalement, se dit-il, la vie est peut-être bien plus simple qu'on ne le croit. Le plat les combla autant que l'entrée. Élise n'avait plus faim, pourtant le dessert s'imposait. Elle hésita longuement entre l'assortiment de sorbet et la tarte à la rhubarbe au poivre de Tasmanie, ganache, chocolat blanc, citron vert. « Prenons les deux, et nous les mettrons au milieu », proposa Édouard. « Gaël m'a demandé d'être le parrain de Gauvin. »
« Oh, c'est une fabuleuse nouvelle !»«
Oui. Je ne suis marraine de personne et j'en suis triste. Rien n'est perdu. Je pensais ne jamais l'être. J'ai aussi décidé de m'installer à Brocéliande. Je voulais t'en parler d'abord. » Édouard, inquiet de la réaction d'Élise, raconta à Adèle sa quête de justice et les conséquences qui auraient pu être dramatiques, son histoire, celle de sa mère, la petite auberge, assez vaste pour les accueillir, la possibilité d'un atelier, son besoin de liberté. « J'ai aussi besoin de garder la mienne », le rassura Élise qui semblait soulagée. « Nous nous verrons moins souvent, mais plus fort. Tu viendras quand tu veux. Toi aussi. Je t'offrirai la forêt, et moi la mer, et moi des automates, et moi des ikebanas. » Édouard se pencha vers le sol pour ramasser son sac à dos. Il en sortit un paquet qu'il déposa sur la table, ainsi qu'une enveloppe. Élise commença par cette dernière. Elle l'ouvrit et trouva son journal d'adolescente, augmenté de quelques pages écrites de la main d'Édouard. Il avait rassemblé leurs deux voix dans un carnet qui portait un titre lumineux.
« Compter les couleurs ? Pourquoi ce titre ?»«
Tu comprendras. » Elle saisit le paquet, se douta de son contenu. Il avait pourtant changé. Le petit clown était désormais debout, sur un banc, fait de minuscules panneaux de cellules photovoltaïques. « Il est comme moi. Il suffit de ta lumière pour que mon cœur tourne, » dit Édouard. Leur table était éclairée par un spot dont l'intensité suffit à déclencher le mouvement du clown. La femme, qui leur déposa les desserts, fut amusée de découvrir le petit objet animé entre ce couple qu'elle observait de loin depuis leur arrivée. Il dégageait une harmonie qui attirait le regard, forçait l'admiration, même une douce jalousie. Vouloir ce qu'ils ont, sans leur en vouloir de ce qu'ils ont. Puis Élise goûta au sorbet à la framboise. Les larmes montèrent à ses paupières.
Ça ne va pas ? S'inquiéta Édouard. Le sorbet est tellement bon.
Elle marqua un silence.
Je suis trop sensible.
Il lui répondit qu'il l'aimait, et il répondait à tout. Élise regarda sa montre en lui signifiant qu'il était 15h15, comme la bataille de Marignan, une étincelle dans le regard. Puis s'inquiéta de rater la dernière correspondance pour l'emballe. « Tu veux bien que je te ramène » proposa-t-il. D'avoir été marcher le long du port en sortant du restaurant et de s'être embrassé sur les remparts de la ville, la nuit avait déjà pris ses aises quand ils arrivèrent à Valandré. Ils posèrent leurs affaires dans l'entrée de la maison. Élise attrapa un panier en osier souple qui semblait vivre là et entraîna Édouard vers la promenade. Ils marchaient sur la plage dans une pénombre complice. Courtois, les réverbères se tenaient à distance. La mer s'était retirée, presque inaudible. Ils étaient seuls, loin de la digue, à une heure tardive où personne d'autre qu'eux n'aurait l'idée de s'aventurer avec cette insolence dans l'obscurité du sable. Ce soir de septembre était doux. Élise portait une longue jupe qui dansait autour d'elle et un pull en laine moelleuse. Elle s'arrêta
et sortit de son sac une couverture qu'elle lança d'un geste grandiose dans le sable, déjà nostalgique des vagues. Il n'aurait que peu de temps avant que le tissu ne s'imprègne d'humidité. Elle était assise entre les jambes d'Édouard, contre sa respiration. Il regardait l'horizon en silence. Les vagues chuchotaient dans le noir. Édouard ne s'était pas trompé sur le titre. Même dans l'obscurité de la plage, avec Élise dans ses bras, il comptait les couleurs. Il leur restait quelques rêves à finir ensemble. Comme il était doux de se le dire enfin.